de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Chine limite à nouveau ses vols. Un processus de recherche en Angleterre pour découvrir les médicaments COVID-19. L'alphabétisation fait les gens créatifs et productifs dans l'ère de la nouvelle normalité. La croissance des énergies renouvelables en Indonésie est la plus élevée du monde. Le gouvernement développe l'énergie solaire pour le secteur de la pêche. L'ambassade d'Indonésie a rencontré des importateurs pakistanais pour sécuriser la part de marché de l'huile de palme. Et la Corée du Nord rétablira des postes de garde à la frontière. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. La Chine limite à nouveau ses vols. La Chine a signalé l'augmentation des cas de coronavirus après la propagation à Pékin. Donc, les vols sont limités à nouveau pour résister à une nouvelle vague d'infection dans tout le pays. Plus de 60% des vols commerciaux à destination et en provenance de Pékin ont été annulés. Le site d'information du Parti communiste Global Times a indiqué mercredi matin 17 juin à 9h. Un total de 1255 vols à destination et en provenance des deux principaux aéroports de la capitale avaient été annulés. Pékin a en fait essayer d'arrêter la propagation locale. C'est juste qu'au cours des derniers jours, il y a eu une augmentation de 137 cas dans la ville de 20 millions d'habitants. Les groupes de touristes qui traversent les frontières de la ville et de la province ne sont pas autorisés. Cette décision ajoute à l'interdiction de déplacer des personnes des zones à haut risque pour quitter Pékin et à l'interdiction des taxis et des services de voitures pour transporter des personnes à travers les frontières de la ville. Le protocole de santé comme porter un masque, garder une distance et désinfecter tout est plus strict. Un processus de recherche en Angleterre pour découvrir le médicament COVID-19. Des scientifiques britanniques disent qu'il y a une percée majeure dans le traitement de nouveaux types d'infections à la COVID-19. Ils rapportent que les stéroïdes peuvent empêcher la mort d'une infection à la COVID-19. Mardi 16 juin, des scientifiques de l'Université d'Oxford au Royaume-Uni ont déclaré sur la base d'essais que les médicaments dexamethasone réduisent le taux de mortalité de 35% pour les patients de COVID-19 dans des conditions critiques et avaient besoin d'un ventilateur pour les aides respiratoires. Pendant ce temps, 20% des patients connaissent également des conditions presque critiques. C'était Peter Orby, en tant qu'universitaire impliqué dans la recherche, comme l'a rapporté VOA mercredi 17 juin. Le chef du médecin britannique Chris Whitty a déclaré que les résultats des derniers essais étaient les plus importants pour la COVID-19. Les scientifiques du monde entier se sont battus pour trouver un remède contre le nouveau type d'infection par le coronavirus, qui est devenu une pandémie mondiale depuis le début de cette année. La dexamethasone est un stéroïde générique utilisé depuis 60 ans pour réduire l'inflammation causée par diverses autres affections, notamment l'arthrite et l'asthme. L'alphabétisation fait les gens créatifs et productifs dans l'ère de la nouvelle normalité. Dans l'ère de la nouvelle normalité, les gens doivent rester créatifs et productifs, bien qu'il y ait encore une pandémie de COVID-19 en Indonésie. L'alphabétisation est la réponse pour que quelqu'un puisse bien lire la situation. On espère que quelqu'un pourra explorer davantage de connaissances ou être en mesure de se transformer en connaissances et en produits de services. Cette compréhension devient le sujet du webinaire intitulé « Se soulever des pandémies avec l'alphabétisation » organisé par la Bibliothèque nationale d'Indonésie en collaboration avec l'Agence nationale de planification du développement BAPENAS mercredi 17 juin 2020. L'événement a réuni 1000 participants dans des représentants des ministères, institutions des gouvernements locaux, BAPEDA et des services de bibliothèque, des universitaires, des activistes et les grands publics. Le chef de Bibliothèque nationale, M. Sharif Bando, a déclaré que la bibliothèque était une solution pour améliorer l'intelligence et l'autonomisation de la nation, ce qui a un impact significatif pour ses utilisateurs. L'orateur principal du webinaire, qui était également ministre de la Planification du Développement National, chef de l'Agence nationale de planification du développement BAPENAS, Suharto Manoharfa, a souligné la nécessité de renforcer la culture de l'alphabétisation communautaire afin de pouvoir sortir de l'adversité. Ceci est important car l'alphabétisation en tant que forme de compétences cognitives, a un grand rôle à jouer dans la reprise socio-économique des sociétés après la COVID-19. La croissance des énergies renouvelables en Indonésie est la plus élevée du monde. L'Indonésie devient la plus grande contributrice à la croissance des énergies renouvelables dans le monde. Entre autres, ce qui se traduit par une augmentation de la production de biodiesel de 13%, battant les États-Unis qui ont diminué la production de biodiesel d'environ 7%. L'Indonésie a également lancé un mandat pour mélanger 30% de biodiesel dans l'essence B30 contre 20% auparavant, qui est le mélange obligatoire le plus élevé au monde. Sur la base des données du rapport sur l'état mondial des énergies renouvelables 2020 publié par REN21, compilé par Antara Jakarta, mercredi qu'au total l'Indonésie contribue au développement du biodiesel dans le monde dans le contexte de l'augmentation des nouvelles énergies renouvelables. Le gouvernement développe l'énergie solaire pour le secteur de la pêche. Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales développe l'utilisation des centrales solaires pour la réfrigérateur dans le secteur de la pêche. Cela a été dit par le directeur des nouvelles énergies et renouvelables du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Haris Yahya, mercredi à Jakarta. Il a expliqué que la Direction générale des nouvelles énergies et renouvelables et de la conservation de l'énergie prépare un programme de développement des grappes économiques maritimes en identifiant le potentiel de développement des nouvelles énergies et renouvelables jusqu'à la discussion de la forme des affaires approvisionnement en électricité. Selon Harris, il devrait être achevé en août 2020, en particulier dans le secteur marin et de la pêche. Le stockage au froid est l'un des plus potentiels à exploiter en utilisant l'énergie solaire. L'ambassade d'Indonésie a rencontré des importateurs pakistanais pour sécuriser la part de marché de l'huile de palme. L'ambassade de la République d'Indonésie à Islamabad se réunit et continue d'établir des communications avec les hommes d'affaires et les importateurs de produits indonésiens au Pakistan pour garantir la part de marché de l'huile de palme dans le pays. Cette décision a été prise par l'ambassade d'Indonésie à Islamabad au milieu de la pandémie de COVID-19 et de la politique de confinement au Pakistan. Comme indiqué dans une déclaration écrite reçue à Jakarta mercredi, afin de sécuriser la part de marché indonésienne de l'huile de palme au Pakistan, l'ambassade d'Indonésie à Islamabad a organisé mardi 16 juin une réunion virtuelle avec Pakistan Vanaspati Manufacturers Association, PVMA, et les importateurs pakistanais d'huile de palme. La réunion virtuelle a été assistée par le secrétaire général de PVMA, Omer Islam, et le directeur du groupe Wahid Fahad Wahid. Au cours de la réunion, l'ambassadeur d'Indonésie au Pakistan, Iwan Suyudi Amri, a apprécié PVMA qui a toujours coopéré pour discuter de l'évolution de la situation et des tendances de l'huile de palme au Pakistan. L'ambassadeur Iwan Amri a déclaré qu'à travers de la coopération qui s'est très bien établie avec PVMA, l'ambassade d'Indonésie peut compléter les informations existantes en tant que matériel pour prendre diverses mesures pour intensifier la coopération mutuelle des deux pays dans le secteur de l'huile de palme. La Corée du Nord établira des postes de garde à la frontière. La Corée du Nord annonce qu'elle rétablira les postes de garde et reprendra l'entraînement militaire dans les zones de Fon mercredi 17 juin. Le pays annulera également un accord important pour réduire les tensions atteintes avec la Corée du Sud au cours des deux dernières années. L'annonce est intervenue un jour après que la Corée du Nord a détruit le bureau de liaison intercoréen. La démolition est l'acte le plus provocateur depuis que la Corée du Nord a entamé des pourparlers sur le nucléaire en 2018. L'état-major de la Corée du Nord a déclaré que des unités militaires seraient déployées dans la station balnéaire et de Diamond Mountain et dans le complexe industriel de Kaesong. Les deux régions de la frontière nord fortement fortifiées. Les sites étaient autrefois un symbole de la coopération intercoréenne et ont été fermés pendant des années en raison de conflits intercoréens et de sanctions économiques en raison de son programme nucléaire. La Corée du Nord a déclaré qu'elle continuerait les exercices militaires et reconstruirait les postes de sécurité dans la zone frontalière. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Avant l'année scolaire dans la nouvelle normalité ». Après être stoppé le processus d'enseignement et d'apprentissage dans tous les secteurs de l'éducation en mars 2020, le gouvernement indonésien a officiellement décidé que la nouvelle année scolaire se poursuivrait au deuxième semestre de cette année. Auparavant, la fermeture de toutes les écoles, établissements d'enseignement jusqu'aux universités avait forcé le processus d'enseignement et d'apprentissage en ligne pour les étudiants. Inévitablement, ce nouveau processus d'apprentissage oblige les parties prenantes et toutes les parties impliquées dans le monde de l'éducation à créer soudainement de nouveaux schémas et procédures selon les directives du gouvernement. Il s'agit de réduire et d'arrêter l'impact de la propagation de COVID-19 dans le domaine de l'éducation. Après avoir tenu des réunions avec un certain nombre de ministères concernés et l'institution spéciale de la gestion de COVID-19, lundi le 15 juin, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Nadiem Makarim, a déclaré que l'ouverture de la nouvelle année scolaire en juillet 2020 était une décision difficile compte tenu de la situation actuelle de la pandémie. Il a dit que beaucoup ont été sacrifiés lorsque les élèves ont appris de ces jours. Cependant, le ministre Nadiem a souligné que des règlements spéciaux seront adoptés plus tard dans le processus d'apprentissage, comme pour les zones jaunes, oranges et rouges seront interdites d'apprentissage face à face, tandis que la zone verte veille vers l'apprentissage face à face. Cependant, l'ouverture de l'apprentissage en face à face doit être autorisée par les autorités locales. L'ouverture des activités d'enseignement et d'apprentissage en juillet 2020 semble avoir été anticipée par certains prestataires de l'éducation en se référant au protocole sanitaire lors de l'épidémie. Dans certaines régions, la socialisation des protocoles a été réalisée, à savoir lors de l'entrée dans les écoles à l'ère de la nouvelle normalité, telles que la santé publique scolaire, les installations et les infrastructures scolaires, le passage de la maison à l'école, les élèves à l'école, les enseignants et les personnels éducatifs à l'école et le retour de l'école. Il faut une préparation sérieuse, précise et exacte pour que la mise en œuvre d'activités d'enseignement et d'apprentissage dans les écoles ne devienne pas un nouveau cluster comme cela s'est produit au Pékin. En plus d'anticiper la menace de nouveaux clusters, le gouvernement devrait également améliorer les programmes scolaires pendant la pandémie, en particulier l'apprentissage en ligne. Comme ce qui est exprimé par le Forum d'action des enseignants indonésiens, les supports d'apprentissage en ligne ont tous été adoptés à la pandémie de COVID-19, si bien que le programme précédent ne peut pas remplir les élèves. Tandis que dans une discussion sur l'une des chaînes de télévision privée nationale, beaucoup ont été discutés des problèmes du processus d'apprentissage en ligne, dont l'un était les limites des étudiants à accéder au matériel et au processus d'apprentissage. Non seulement la capacité limitée à accéder à l'Internet, mais les facteurs socio-économiques et géographiques affectent également considérablement le succès de l'apprentissage en ligne. En effet, le processus d'enseignement et d'apprentissage peut être n'importe où, mais la disposition des parents à accompagner leurs enfants à apprendre doit également être prise en compte. Il est donc préférable de penser au mentorat pour les parents pour gérer et maintenir la durabilité du processus d'apprentissage en ligne. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs, bonsoir. Tout de suite, je vais vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, Audrey. On commence avec l'événement du 18 juin 1983. L'astronaute Sally K. Ride est devenue la première femme américaine dans l'espace après qu'elle et quatre de ses collègues ont plané en utilisant le Challenger. Sally Kristen Ride est une astrophysicienne et astronaute américaine née à Encino en Californie avec son titre de doctorat en physique de l'Université de Stanford. Elle a rejoint la NASA en 1978, est devenue astronaute et a aidé à concevoir des bras de robots pour des véhicules spatiaux. Le 18 juin 1983, elle est devenue la première femme des États-Unis à être dans l'espace en 1986. Elle est devenue membre de la commission d'enquête sur le crash de la navette spatiale Challenger et de Columbia. Après avoir quitté la NASA en 1989, elle est devenue professeure de physique et directrice du California Space Institute à l'Université de Californie à San Diego. Chers amis, passons maintenant à l'événement du 18 juin 1989, le changement de nom du pays de Birmanie en Myanmar. Le 18 juin 1989, le gouvernement de la junte militaire a changé le nom de la Birmanie en Myanmar. Le nom change de Birmanie à Myanmar afin que les groupes ethniques non-birmans se sentent partie du pays. Malgré cela, ce changement de nom n'a pas été pleinement adopté par le monde international, en particulier par les pays du Commonwealth britannique. Cependant, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est de l'ASEAN et les Nations Unies utilisent le nom Myanmar. Chers amis, on termine l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 18 juin 1999 sur la mort de l'artiste Motingo Boucher. Motingo Boucher, de son vrai nom Bustami Jalid, est un écrivain, réalisateur et peintre indonésien. Tout au long de sa vie, Motingo a écrit plus de 200 œuvres qui sont toujours conservés à la bibliothèque du Congrès de Washington DC, dans la ville de Séoul, en Corée du Sud. Son nom est magnifiquement sculpté parmi mille noms de poètes du monde. Ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues étrangères, dont le tchèque, l'anglais, le néerlandais, le français, l'allemand, le coréen, le japonais et le mandarin. Motingo a une fois rempli l'émission de Radio République Indonésia RRI Bukit Tinggi en 1952. Il a également réalisé brièvement plusieurs longs métrages indonésiens. Motingo Boucher aimait aussi la peinture. En 1954, une exposition de peinture à Padang présentait 15 de ses tableaux. Il est décédé le 18 juin 1999. À l'âge de 61 ans. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Sungguh tak kumengerti kau buatku begini lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Ku kira engkaulah yang terakhir, kini aku harus hancur. Teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir. Kini aku harus hancur. Tidak, aku seperti aku.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts a souligné que la gestion du problème des déchets doit être faite de l'amont vers aval. Le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Alu Dohong, a souligné que le problème des déchets devait être traité de l'amont vers l'aval et que le public devait être conscient. Alu Dohong, lors d'une conférence de presse en ligne tenue à Jakarta mardi, a déclaré que la pollution du bassin du fleuve Citarum était due à la mise en œuvre non optimale de la gestion des déchets, le transport des ordures ménagères qui n'est pas effectué tous les jours, le manque d'installations et infrastructures pour la gestion des déchets et la faible sensibilisation du public autour de la rivière Citarum, des visiteurs ou des touristes pour maintenir la propreté. Le vice-ministre a souligné que tout investissement dans la gestion et le contrôle des déchets doit être accompagné de la sensibilisation des différentes parties à la gestion des déchets. Si cela n'est pas fait, l'investissement sera plus grand pour ce secteur. En fait, il existe déjà la conscience du problème des déchets. L'investissement peut être utilisé pour d'autres intérêts publics. Par conséquent, la manutention doit être en amont, en aval. Le problème des déchets dans le bassin du fleuve de Citarum est une préoccupation parce que selon les données du ministère de l'Environnement et des Forêts, le nombre de décharges entrant dans le bassin versant est d'environ 500 000 tonnes par an, soit environ 1 300 tonnes par jour en 2018. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a fourni l'assistance sous la forme d'installations de gestion des déchets à 5 gouvernements locaux dans le bassin de la rivière Citarum, à savoir la régence de Indramayu, la régence de Purwakarta, la régence de Sumedang, la régence de Subang et la régence de Bekasi. L'installation sous la forme d'un centre de recyclage, d'une banque de déchets principale, d'un biodigesté devrait être en mesure d'aider les gouvernements régionaux dans le processus de gestion des déchets afin de réduire la quantité de déchets. Le gouvernement impose l'objectif de réduction des déchets de 30% et de traitement des déchets de 70% en 2025, conformément au règlement présidentiel numéro 97 de 2017 concernant les politiques et stratégies nationales de gestion des déchets ménagers et des ordures ménagères. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. Dengan hati yang gembira, menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu.
Sungguh indahnya hidup ini. diriku.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé La danse de Soka Papak. Le 4 juin, une danse typique de la région de Sika, appelée la danse de Soka Papak, a été présentée pour accueillir le régent et l'adjoint du régent de Sika, M. Franciscus Roberti Diogo et Romanus Woka, lors d'une cérémonie de bienvenue pour le navire Roro Windu Karsa Dwitya, qui naviguera de Maumere à Surabaya. La danse de Soka Papak est faite par le studio de danse Doka Tawatana. Littéralement, la danse de Soka Papak est composée de deux syllabes, à savoir Soka qui signifie danse et Papak signifie accueillir, respecter et garder. Donc, Soka Papak signifie la danse pour accueillir et accompagner des invités. Dans le passé, la danse de Soka Papak avait pour but d'accueillir et d'accompagner les grands et honorables invités qui se sont rendus dans les régions de Sika. À l'époque royale, cette danse avait lieu lorsque le roi et la reine entraient dans le village. Tous les villageois sont descendus au centre du village pour accueillir le roi et la reine avec son entourage. Cette danse est généralement exécutée par 10 femmes et un homme. Parce qu'ils servent à accompagner l'invité d'honneur, les danseurs dansaient en portant des épées, des machettes et des lances. Dans le passé, les danseurs de Soka Papak étaient des personnes expertes dans l'escorte et la sécurisation des rois et des reines. Lorsqu'il y a des ennemis qui attaquent, ils sécurisent immédiatement. La danse de bienvenue au Soka Papak est également une danse de masse. Elle est exécutée par plus d'une douzaine de personnes. Chers amis, c'était un magazine culturel intitulé La danse de Soka Papak. Merci à tous et au revoir.
Papa, 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 papa
bukan kembali. Takkan pernah lagi akan ku sesali. Entah apa yang kan ku hadapi, semua ku lalui. Takkan pernah berhenti, yeah, yeah.
Aku tak hiraukan sedih.
Trying to get you, trying to break you. Stone liver, baby. Don't you worry about things, makes you crazy. Yeah. Biarkan yang lalu pergi. Mari jalani hari yang baru. Jangan hilang semangatku.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, en format sur Nenofest 2020. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, la pandémie de COVID-19 a touché toutes les articulations économiques et sociales de la société, y compris l'industrie du divertissement du pays. Pour maintenir en vie l'industrie du divertissement du pays, une nouvelle percée a été réalisée en organisant un festival de musique en ligne intitulé Nenofest 2020, afin de rester en conformité avec le protocole de santé fixé par le gouvernement pour stay at home, Ninofes vient en donnant une nouvelle expérience d'écoute des festivals à la maison, en présentant une rangée des meilleurs artistes indonésiens tels que Noah, Rosa, Toulouse, Keisha et d'autres. Chers amis, Ninofes a été créé dans le contexte de la situation de pandémie de coronavirus, ce qui a fait que tout se faisait en ligne, de sorte qu'il formait une nouvelle habitude dans la société. Ninofes 2020 est la première série de concerts en ligne qui sera diffusée en direct pendant 3 jours consécutifs. Le festival se tiendra du 26 au 28 juin 2020. Ninofes présentera une sensation différente en regardant un concert, en particulier par rapport au concert en général. Chers amis, dans Ninofes 2020, chaque artiste apportera un conseil différent. Cela fournira certainement une expérience de concert en streaming qui n'a jamais existé auparavant. Techniquement, cet événement se déroulera en ligne via la plateforme loket.com live. Les concerts sont diffusés streaming en direct. Pour la cible, Ninofes attend 60 000 téléspectateurs pour 3 jours de streaming en direct. Les billets de l'événement Ninofes 2020 peuvent être achetés via Gothic et Loket.com. Mon cher Jolitaire, c'était l'Indonésie en couleur.
Cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi. Aku ingin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lupa. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan. Hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar
Apa ku telah bersaung? Aku tak ingin jauh padamu. Aku akan berlabuh sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et voici le magazine musical. Cette édition, je vais vous présenter une chanson de Betaria Sonata. Vous êtes avec moi, Audrey. Cher ami, Betaria Sonata a commencé sa carrière de chanteuse depuis 1980. Son premier album intitulé « Kau tercipta untukku » a été sorti en 1981, ayant une chanson principale avec le même titre. Cette chanson rendra célèbre son nom dans le monde de la musique pop indonésienne. « Kau tercipta untukku » ou en français « Tu es créé pour moi » raconte de quelqu'un qui pense que lui et la personne qu'il aime sont deux êtres que Dieu a créés pour être ensemble. Mon cher auditeur, écoutons Beataria Sonata avec la chanson dont le titre est « Kau tercipta untukku ». Bonne écoute.
Cheetah!
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.